Frédéric Oudéa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de la Société Générale. Nous sommes avec vous aux rencontres Paris-Europlace où vous intervenez sur une table ronde qui concerne la réforme des marchés financiers et comment optimiser le financement de l'économie. C'est vrai que c'est le sujet crucial du moment compte tenu de la crise économique et financière. Avec, de votre point de vue, est-ce que ce qui s'est passé du côté européen a amélioré les choses? On a parlé d'union bancaire, on a eu sauvetage de banques espagnoles. Est-ce que l'environnement s'améliore de votre point de vue?
Alors d'abord, effectivement, le financement de l'économie européenne, c'est le grand défi des prochaines années. Et quand on dit financement de l'économie, c'est principalement, bien sûr, le financement des entreprises via les actions, comme d'ailleurs le crédit. Alors c'est vrai que, et c'est une très bonne chose, le sommet européen a été bien accueilli. Et probablement, le résultat a été supérieur aux attentes. Le sommet européen, je pense d'abord, réaffirme l'engagement d'avancer dans une construction intégrée de la zone euro et de l'Europe. Et deuxièmement, met en place effectivement des ingrédients, des éléments de cette intégration, notamment une union bancaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette union bancaire? C'est une supervision qui soit notamment confiée à un niveau qui dépasse le niveau national, et puis des mécanismes de solidarité qui rétablissent la confiance, préservent la confiance dans le secteur bancaire de la zone euro.
Alors du côté des banques, on pourrait dire que là, ça ne s'améliore pas. On a eu un scandale du côté du Libor avec Barclays mis en cause. On a eu des pertes accrues de JP Morgan. On a l'impression que de ce côté-là, rien ne change. Est-ce que c'est votre point de vue?
Non, et là, évidemment, la résonance de ces différents sujets impacte à nouveau l'image des banques, mais je crois qu'il faut sérier les problèmes et prendre un peu de distance. Depuis le début de la crise, les choses ont profondément changé. Les modèles des banques ont profondément changé. Et toutes les affaires dont on parle, certaines des affaires en tout cas remontent à avant la crise d'ailleurs. Donc je crois qu'il faut bien entendu continuer à renforcer la sécurité du système, mais bien entendu aussi prendre en compte les enjeux attachés une nouvelle fois au financement de l'économie. Une économie forte a besoin de banques. Une économie forte a besoin de banques fortes. Le financement de l'économie européenne va dépendre dans les prochaines années de plus en plus des activités de marché. Et c'est l'enjeu, bien entendu, c'est justement que ces activités fonctionnent de manière efficace dans la zone euro et l'Europe de demain.
Alors avec ces derniers événements, vous comprenez que certains poussent effectivement à une séparation des activités de banque de financement et d'investissement et des activités de banque de détail, en disant que finalement ces activités de banque de financement ne sont pas contrôlées ou contrôlables même.
D'abord, le point fondamental, c'est que justement, effectivement, elles sont contrôlables. Et il faut que le contrôleur fasse bien son travail. La régulation, la qualité de la régulation, la qualité des contrôles, c'est ça qui fait le système, in fine, la résistance du système. Quand on regarde finalement les graves crises depuis 5 ans, elles viennent toutes de crises immobilières, que ce soit aux États-Unis, en Irlande, en Espagne. D'abord, la première des leçons, c'est les crises immobilières, c'est ça qui déstabilise notamment les systèmes bancaires. Et derrière la crise immobilière, c'est la qualité de l'origination du crédit. Donc, en ce qui concerne l'organisation des banques, ce que nous disons, nous, c'est que le modèle de banque universelle a montré sa solidité à travers la crise. Et nous pensons qu'il faut préserver ce modèle, un modèle tourné vers ses clients, un modèle qui ne se consacre pas à la spéculation, à des activités purement spéculatives, mais ce modèle universel, c'est celui qui est adapté à l'Europe.
Est-ce qu'il n'a pas montré ses failles, justement, parce que finalement, il est assez récent, ce modèle, il a une quinzaine d'années, alors qu'on pourrait dire de 1933 à 1999, avec le fameux Glass-Steagall Act aux États-Unis, cette séparation, il n'y a pas eu de risque systémique, il n'y a pas eu de grave crise. Et là, finalement, on vit la pire crise depuis 1929 avec ces nouveaux modèles.
Je vous ferai observer, les grands sinistres bancaires sont le fait d'établissements spécialisés. Lehman n'est pas une banque universelle. Bankia, qui vient d'avoir un problème, 23 milliards d'euros, ce n'est pas une banque universelle. C'est une banque de détail très simple, sans activité de marché, qui ne fait que du prêt immobilier. Une nouvelle fois, le modèle de banque universelle, son intérêt, c'est quoi? C'est la diversification des activités. Il faut en matière bancaire être humble. On peut tous faire une erreur sur un crédit. Il peut y avoir une perte sur les activités de marché. La matière bancaire, ce n'est pas quelque chose qui est si simple que ça. En revanche, le point important, c'est justement d'éviter de faire une trop grosse erreur sur un risque donné. Le bénéfice du système universel, c'est justement la diversification du risque. Et puis le bénéfice du système universel, c'est aussi pour le client un accès à différents services avec un banquier qui lui ouvre les services de la banque.
Alors on pourrait dire qu'avec l'affaire JP Morgan, c'est encore un trader qui effectivement se retrouve mis en cause et les pertes plus pratiquement 6 milliards. Donc on dit, est-ce qu'on peut vraiment contrôler cette activité-là? Est-ce qu'aujourd'hui ce qui est arrivé dans certains dossiers ne peut plus arriver? Parce que là, c'est tout récent et c'est encore un trader qui fait ce genre de choses.
Attendons d'abord d'y voir clair. Moi, je ne sais pas exactement quelle est ni l'ampleur de la perte et les raisons de la perte.
Elle a grossi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est par rapport à l'estimation.
Attendons. Je doute en plus que ce soit un trader. Ce n'est pas, à mon avis, un trader. Et nouvelle fois, le point important, est-ce que JP Morgan aujourd'hui a la capacité d'absorber cette perte? C'est le cas. Puisque, effectivement, JP Morgan, une nouvelle fois, est une banque avec beaucoup de capital et des profits. Donc, une nouvelle fois, le point important, je crois, c'est que il peut y avoir des prêts qui conduisent à des pertes. Il peut y avoir des activités de marché qui, intrinsèquement, conduisent à des pertes. Le point important, il ne faut pas que la perte soit trop importante pour mettre en cause, évidemment, la sécurité de l'établissement bancaire. C'est ça le point important.
Alors, vous parliez de résistance de ces banques universelles. En même temps, on vous voit, vous, comme d'autres d'ailleurs, comme d'autres banques universelles, aller au guichet de la Banque Centrale Européenne pour chercher des liquidités. Donc, on se dit que la situation, quand même, n'est pas encore réglée, ou loin d'être réglée.
Alors, la crise, elle n'est pas terminée. On le voit bien, il y a une crise de confiance profonde dans la zone euro et il faut continuer à rétablir cette confiance. En ce qui concerne les liquidités de la Banque Centrale Européenne, c'est quoi? C'est un filet de sécurité. C'est une assurance. C'est se dire, justement, le système bancaire va pouvoir continuer à financer l'économie indépendamment de ce qui peut se passer concrètement sur la question de la confiance dans la zone euro et qui peut potentiellement, temporairement, limiter l'argent qui arrive dans le système bancaire européen notamment. Donc c'est une très bonne chose, c'est un montant qui est finalement limité par rapport à la somme totale des prêts, et c'est une assurance. C'est comme ça en tout cas que les banques françaises ont utilisé cette facilité.
Est-ce qu'on ne reste pas finalement dans un déséquilibre structurel entre les dépôts et les crédits, justement pour financer vos activités de marché et toutes les activités à l'international?
Alors vous mentionnez à juste titre, un point très spécifique du système bancaire français, c'est qu'il y a plus de crédits que de dépôts. Et donc justement, il n'y a pas un centime d'euro des Français, un centime de dépôt qui va financer des activités de marché. Nous n'avons pas assez d'argent pour financer les prêts aux particuliers et les prêts aux PME. Et ça, c'est vrai que c'est une faiblesse, ou en tout cas un des points sur lequel il faut corriger la situation française au regard de la nouvelle réglementation. Et comment il va falloir faire? Il va falloir rapatrier plus d'épargne des Français sur le bilan des banques françaises. C'est un des enjeux des 2 à 3 prochaines années.
C'est pour ça que vous dites que vous n'êtes pas favorable à l'augmentation des dépôts sur le livret A, notamment. Alors on pourrait dire, où investir son argent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites aux Français qui nous regardent? Investir en bourse, investir, où investir? Parce que là, c'est de la liquidité. On sait que quand on met sur son livret A, on récupère l'argent.
Absolument, mais je comprends très bien, moi, l'attitude des Français. Mais en même temps, ça pose un vrai problème, parce qu'une économie où l'épargne des Français, des acteurs, ne va ni sur les actions qui financent le développement des entreprises, la capacité à investir, ni dans les bilans bancaires pour alimenter le crédit, et qui va finalement sur un produit très liquide, mais dont finalement l'utilisation est peut-être largement sous-exploitée, sous-optimisée, c'est pas sain. Il faut une nouvelle fois qu'on ait des incitations fiscales au profit des financements longs, que ce soit les actions ou le crédit bancaire, à destination des entreprises. C'est comme ça qu'on créera de l'emploi et c'est comme ça qu'on optimisera le financement de l'économie.
En conclusion, on voit qu'il y a eu des réformes aux États-Unis, il y en a eu au Royaume-Uni. Pour la France, il n'y a pas de réforme nécessaire des banques universelles françaises? Ça paraît très étonnant qu'il n'y ait aucune réforme, qu'on ne change rien en France.
Alors d'abord, il faut évidemment sortir d'une logique nationale. Cet enjeu, il est européen. Cet enjeu, il est européen parce qu'on le voit, il faut raisonner Europe quand on parle financement, activité financière. Et d'ailleurs, encore une fois, le sommet va de ce point de vue dans le bon sens en parlant d'union bancaire. Ça veut dire une dimension européenne. Alors aujourd'hui, il y a un groupe de réflexion qui a été mis en place au niveau de la Commission qui est en train de regarder si au fond, au-delà des réformes considérables de Bâle III, il faut rajouter quelque chose en complément sur l'organisation. Attendons les conclusions de ce groupe et à mon sens, c'est en fonction de ces conclusions qu'il faudra décliner au niveau national des adaptations supplémentaires. Nous sommes de ce point de vue plutôt en faveur de règles Volcker à l'européenne, puisque c'est déjà ce que nous faisons et que ça va dans le bon sens, à savoir limiter bien sûr les activités spéculatives. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous nous intéressons à nos clients.
Merci Frédéric Oudéa d'avoir fait le point avec nous. En fait, vous êtes donc le PDG de la Société Générale.
Merci.